bien plus qu'une radio, Radio Plus sur 104.3. Vous êtes à l'écoute de l'Heure Flamande, émission préparée par Michel et Marie-Jo.
Et aujourd'hui, nous allons évoquer Laser, l'Isère. C'est un nom qui fait souvent écho par rapport à une bataille, en effet, la bataille de l'Isère pendant la Première Guerre mondiale. Alors l'Isère, c'est un cours d'eau qui traverse la Flandre. Certes, ce n'est pas la Loire, ni même le Danube. C'est un petit fleuve qui ne dépasse même pas les 80 km, mais pourtant il est chargé d'histoire. Et nous allons donc, au cours de cette émission, vous faire découvrir ce fleuve flamand.
Het is niet waar dat ergens anders de bergen hoger, de vlakten vlakker en de rivieren trager zijn. Het is niet waar. Het is niet waar dat ergens anders de huizen hoger, de regens zachter en alle dalen dieper zijn. Het is niet waar. Echt waar is alleen, je wil weer naar huis, een straat, een café, een vrouw, je bent thuis. Echt waar is alleen jouw huis, dat staat hier, al stinkt dan de grijze, de trage rivier. Thuis is hier, thuis is hier. Het is niet waar dat ergens anders de sterren feller, de zon veel warmer, de maan 's nachts zoveel witter schijnt. Het is niet waar. Het is niet waar dat ergens anders de hemel blauwer, de winter kouder, het gras van mei er groener schijnt. Het is niet waar. Echt waar is alleen, je wil weer naar huis, een straat, een café, een vrouw, je bent thuis. Echt waar is alleen jouw huis, dat staat hier, al stinkt dan de grijze, de trage rivier. Thuis is hier, thuis is hier. Het is niet waar dat ergens anders de mannen sterker, de vrouwen zachter en kinderen zoveel liever zijn. Het is niet waar. Het is niet waar dat ergens anders de waarheid echter, de leugen slechter en vrienden zoveel hechter zijn. Het is niet waar. Echt waar is alleen, je wil weer naar huis, een straat, een café, een vrouw, je bent thuis. Echt waar is alleen jouw huis, dat staat hier, al stinkt dan de grijze, de trage rivier. Thuis is hier, thuis is hier.
Mille Cols, vous interprétez Teuls, chez moi, ma maison. Vous êtes à l'écoute de l'Heure Flamande sur Radio Plus.
Et aujourd'hui, nous allons donc évoquer un fleuve qui traverse la Flandre. C'est l'Isère. Alors l'Isère, c'est pas un nom qui laisse bien sûr indifférent. C'est un nom souvent qui fait écho à des heures tragiques, en particulier avec la Première Guerre mondiale, la fameuse bataille de l'Isère. Alors l'Isère, ce n'est pas bien sûr une ville comme Ypres, mais c'est un fleuve modeste, certes par la longueur, mais chargé de pages d'histoire. C'est un fleuve donc de moins de 80 km et il prend sa source en Flandre française. L'Isère donc est né en Flandre française auprès d'un village qui s'appelle Bocher, non loin d'ailleurs de Saint-Omer. Sa source, eh bien, se situe à moins de 40 mètres d'altitude. C'est dire que ce fleuve, dès sa naissance, eh bien, il va descendre tout doucement vers la plaine flamande. C'est un fleuve qui prend son temps, qui serpente, qui louvoie. Son écoulement est lent et tranquille, mais il prend tout son temps pour traverser cette riche plaine flamande. Mais néanmoins, il faut rester quand même vigilant parce que, évidemment, ce fleuve, eh bien, il a, comme tous les fleuves, eh bien, de temps en temps des mouvements de colère. Et récemment, on a pu s'apercevoir qu'il faut bien sûr faire attention. Un cours d'eau, l'été, peut paraître bien modeste, mais en hiver, il se met à gronder. Et bien souvent, malheureusement, trop souvent, on oublie qu'un fleuve, eh bien, il a tout simplement deux lits, le lit mineur, mais un lit majeur, et il faut prendre garde de ne pas vouloir occuper cet espace que l'on appelle le lit majeur, sinon on aura tout de suite les pieds dans l'eau. Et ça entraîne bien sûr de nombreux drames, comme on a pu le voir encore récemment à travers l'actualité. Donc l'Isère, eh bien, tout simplement, lui, eh bien, il serpente un petit peu partout. Et d'ailleurs, ça pose bien sûr quelques problèmes, puisqu'il a fallu construire de nombreux petits ponts pour bien sûr franchir ce cours d'eau. Des petits ponts construits en briques du pays, en briques jaunes, qui sont bien pas très larges, mais qui sont solides. Et d'ailleurs, lors d'un de ces petits ponts, eh bien, on a trouvé une petite mésaventure qui est extraite donc d'un journal local de 1870, et nous allons donc écouter cet extrait.
Outre les ponts qui enjambaient les becs, on a de longue date construit des ouvrages en briques que l'on nommait couramment aqueduc, afin de permettre le passage des eaux des fossés sous les routes. Ils n'étaient généralement pas bien importants, et pourtant, certains tentaient de s'y reposer à l'abri. C'est ce que fit une dame de Bolzel le 31 juillet 1870. Le journal L'Indicateur relate l'aventure. Lundi, vers le soir, une bonne femme de Bolzel suivait la route qui conduit du village vers l'Erkelsbrücke. Arrivée à une certaine distance de la place, elle croit entendre un son de voix, puis des plaintes, puis des gémissements étouffés qui semblent sortir du dessous terre. Elle s'arrête, regarde autour d'elle et ne voit âme qui vive. La peur la saisit. La voici se sauvant à toute la vitesse de ses jambes. Hors d'haleine, elle raconte à ses voisines ce qu'elle vient d'entendre. Celle-ci vont propageant cette étrange nouvelle qui, en un rien de temps, devient le sujet de 1000 commentaires. Quelle peut être cette voix? D'où proviennent ces gémissements? Telles sont les questions que l'on s'adresse. Cette voix n'était autre que celle de la femme X. Celle-ci avait ce jour-là un peu trop copieusement fêté la Saint-Lundi, et au lieu de rentrer chez elle, où l'attendait une bonne raclée de la part de son cher époux, s'était décidée à passer la nuit à la Belle Étoile. Or, pour que personne ne vînt l'interrompre dans son sommeil, elle avait pénétré sous un petit aqueduc qui traverse la route. Arrivée au milieu, elle ne put plus ni avancer ni reculer, de sorte qu'elle se trouvait prise comme dans une souricière. C'était alors qu'elle exhalait les plaintes qui furent entendues des passants. On alla à son secours, mais impossible de la tirer de l'étui dans lequel elle s'était fourrée. On mit tout en œuvre et tout fut inutile. Restait un dernier moyen, ouvrir une tranchée sur la route. Et la route fut ouverte. Bientôt la maçonnerie de l'aqueduc céda sous les coups de la pioche, et enfin la femme X put être remise au grand jour. Elle respira et, toute confuse, regagna le domicile conjugal.
Voilà, et donc c'est une de mes aventures relatées donc, dans le journal local. Il s'est extrait d'ailleurs d'un journal de l'association Isarouk. Il avait publié donc cet extrait et qui milite bien sûr pour la sauvegarde de ce patrimoine, en particulier donc les berges de l'Isère.
D'entendre un poème d'un poète flamand, André De Vinck, de la région de Flandre-Dunkerquoise, chanté, mis en musique par Marik.
Et aujourd'hui, donc, l'heure flamande est consacrée à un fleuve flamand, l'Isère. Alors, l'Isère qui donc prend sa source non loin de Saint-Omer, au petit village de Becher, et s'écoule naturellement vers le nord. Tout simplement, eh bien, parce que la pente se dirige naturellement de ce côté-là. Car, bien sûr, comme vous le savez, le cours d'eau, lui, suit la pente. Hein, il ne va pas remonter les collines ni les montagnes. En effet, nous sommes ici situés dans le bassin dit anglo-belge, qui est séparé par les collines d'Artois du bassin parisien. Le bassin de l'Isère fut d'ailleurs, lors du XIe siècle, victime d'une submersion marine qui fit, comme on l'imagine, de nombreuses victimes, tant sur les troupeaux, mais aussi malheureusement de nombreuses victimes humaines. On parle aujourd'hui régulièrement donc des risques de submersion, mais il faut savoir tout simplement que quand on regarde eh bien, l'histoire, eh bien, malheureusement, il y a déjà eu des submersions sur nos côtes, en particulier donc sur la côte flamande. Et donc, eh bien, la mer reprend de temps en temps ses droits, et c'est pour ça qu'il faut toujours, bien sûr, être sur ses gardes et prendre les moyens pour protéger, bien sûr, les terres et bien sûr les vies des gens. Alors l'Isère prend petit à petit un peu plus de force après avoir pris tout son temps pour traverser donc pendant presque à peu près une trentaine de kilomètres la campagne flamande et il s'approche tout simplement aujourd'hui de ce qu'on appelle la frontière puisque là il prend de la force, le fleuve s'élargit, il bénéficie bien sûr de quelques affluents, en particulier d'un des affluents, la Pénin. L'Isère commence à devenir donc navigable et d'ailleurs très vite évidemment les hommes ont cherché bien sûr à exploiter ce cours d'eau puisqu'il le ramenait vers la mer du Nord et dès le XIIe siècle eh bien sûr les hommes ont cherché à sécuriser les berges dans un premier temps et puis après les travaux n'ont jamais cessé puisque eh bien tout simplement le trafic devenait de plus en plus important et en plus les bateaux évidemment devenaient un peu plus importants, un peu plus lourds, ils avaient beaucoup plus de marchandises et à partir du XVIe siècle eh bien des travaux très importants vont être entrepris pour canaliser donc l'Isère. Et il y a bien sûr non seulement la sécurisation des berges, mais aussi bien sûr il faut creuser un peu plus le canal pour rendre plus navigable ce cours d'eau. Alors sachant bien sûr qu'à l'époque, tout simplement les routes fluviales étaient beaucoup plus commodes pour transporter à la fois les marchandises mais aussi les hommes car évidemment à l'époque il n'y avait pas d'autoroute ni de route qui étaient avec du goudron ou du macadam. Alors évidemment, de temps en temps, il a fallu corriger un petit peu la ligne de ce cours d'eau, puisque, comme je disais tout à l'heure, il avait de nombreux méandres, donc c'est pas facile pour la navigation. Et donc, évidemment, de temps en temps, on a des anciens bras de l'Isère, le Daude et l'Isère, l'Isère mort, comme par exemple du côté de Rosbruges. Et aujourd'hui, vous pouvez donc visiter ce site de la Daude Isère qui est absolument magnifique, où en fait, tout simplement, on essaie de préserver la diversité, bien sûr, aussi bien en plantes que les animaux. Donc, c'est un refuge pour les oiseaux et pour de nombreux petits animaux comme les batraciens, etc. Donc, je vous invite à visiter donc le site qui est à cheval sur la frontière, donc du côté de Rosbruges.
Sur la mer.
Plaïs, vous chantez Le Grand Vent. Vous êtes à l'écoute de L'Heure Flamande sur Radio Plus.
Et aujourd'hui, nous consacrons ce numéro à l'Isère, donc le fleuve flamand de moins de 80 km qui traverse donc toute la Flandre et qui aujourd'hui, bien sûr, est une partie donc sur la Flandre française et l'autre partie sur la Flandre dite belge. Évidemment, donc, des travaux très tôt, donc dès le XVIe siècle, on essaie d'aménager donc ce cours d'eau pour en effet, bien sûr, servir de voie d'accès, de transport aussi bien des hommes que des marchandises. Les travaux d'aménagement sont d'ailleurs de plus en plus importants, d'autant que la fréquentation est de plus en plus importante. Évidemment, si aujourd'hui, eh bien, on voit passer les péniches qui sont, bien sûr, disons, actionnées par des puissants moteurs, une fusée pas toujours le cas, et d'ailleurs ici on peut écouter un texte justement qui eh bien évoque le travail très difficile des mariniers de jadis.
Ils sont venus de tout là-bas, des mers du nord, traînés par les chevaux à la forte encolure, et des filles, l'air frais grisant leurs chevelures, poussaient le gouvernail de bâbord à tribord. Les hommes sur la gaule appuyée au plat-bord, les petites maisons et les vertes toitures, les volets blancs, les pots de fleurs et les boutures, lentement ont passé d'un fort à l'autre fort. Ils sont venus au long des chemins de halage, d'un bourg à l'autre bourg, de village en village, et d'écluse en écluse aux canaux réguliers. Ils dorment maintenant amarrés, près des berges, sous l'ombre des ormeaux et des grands peupliers, où fume le repos tranquille des auberges. Donc c'est un poème intitulé Les Bateaux, écrit par Léon Boquet, un poète né en 1876 dans un petit village des environs de Lille, à Marquilly.
Voilà, donc c'était le travail donc très difficile des mariniers de jadis. Alors, évidemment, l'Isère, eh bien, traverse de nombreuses communes et on va reprendre un petit peu le cours de ce fleuve. Donc, à partir de sa source, eh bien, comme on disait tout à l'heure, il prend sa source à Bœcher. Donc, c'est une charmante petite commune qui se situe dans Flandre française, non loin donc de Saint-Omer. Il se dirige ensuite vers Bolezel, c'est un autre village un peu plus important que le précédent, qui compte à peu près 1500 habitants actuellement. Et qui mérite bien sûr de s'arrêter puisqu'il a une église qui est dédiée à Saint Wandrille. C'est une église qui possède de très beaux retables sur bois qui sont particulièrement remarquables. Un buffet d'orgue du XVIIe siècle. L'église date du XVIe, mais elle a été bien sûr profondément rénovée. Il faut aussi admirer les magnifiques vitraux de cette église. Dans ce village aussi, qui est riche en histoire, il y a chaque premier week-end du mois de juillet une grande fête où on sort bien sûr les géants des Flandres, qui s'appelle Petjenoom, Metjemoy, donc père et mère, Metje, ça veut dire maman en flamand dialectal, et leurs enfants bien sûr Netje et Fonch. Donc, qui a toujours ce diminutif, hein, Dieu, c'est le côté amical, sympathique. Et donc, naturellement, vous pouvez faire de très belles balades aussi en vélo le long des berges de l'Isère. De Bolezel, eh bien, nous allons nous diriger maintenant vers Esquelbecq. Alors, Esquelbecq, pour les amoureux des livres, eh bien, connaissent bien cette bourgade d'Esquelbecq, qui est remarquable d'une part par son château de Renaissance flamande, qui est en pleine rénovation après avoir été un petit peu abandonné pendant une trentaine d'années. Donc les nouveaux propriétaires font un effort magnifique pour restituer la splendeur de ce château. Ils ont déjà ouvert d'ailleurs les parcs, les jardins qui sont à la flamande, Donc absolument magnifique à regarder. Le château lui-même est d'ailleurs au centre du village. Là aussi, c'est vraiment une architecture typique de la Renaissance flamande. Et il y a aussi, bien sûr, au centre du village, l'église. L'église qui est consacrée donc à Saint Folquin. Saint Folquin était un évêque très proche, d'ailleurs, du grand Charlemagne. Donc, c'est ce saint qui est venu évangéliser le secteur de Esquelbecq. L'église, malheureusement, avait subi un terrible incendie en 1976. Mais heureusement, la population, il y a eu une énergie formidable pour reconstruire cette église. Et cette église qui d'ailleurs contenait jusqu'encore récemment les reliques de saints. Mais dit-on, aujourd'hui, ils auraient disparu. Esquelbecq, donc, c'est bien sûr la nuit des livres qui se déroule chaque année. Et, d'ailleurs, de nombreux bouquinistes se sont installés et vous pouvez bien sûr découvrir ou redécouvrir des livres aussi bien anciens, des poèmes, rencontrer des écrivains. Donc, c'est devenu vraiment Esquelbecq synonyme d'un village littéraire très, très prisé. Donc, non seulement à l'intérieur des frontières de Flandre, mais on vient même de très loin, d'ailleurs d'Angleterre, du sud de la France, de Bretagne, pour eh bien, tout simplement rechercher la perle rare dans les nombreux livres qui sont proposés au cours de cette manifestation.
En de eenden niet bestonden. Er drie of eenden niet bestonden. En een man die scheen in de en draaiden ze ronde. De man die scheen.
Thank you.
Vous venez d'entendre Quadrille, vous interprétez Le Canal en octobre. Vous êtes à l'écoute de Radio Plus 104.3.
Et aujourd'hui, nous évoquons donc le fleuve Flamand, l'Isère. Donc, l'Isère, après avoir baigné donc le superbe village de Esquelbecq, que je ne peux que vous recommander de visiter, car il y a le château, il y a l'église, mais il y a aussi bien sûr de nombreuses librairies. Donc, pour ceux qui aiment les vieux livres comme les nouveaux d'ailleurs, peuvent bien sûr visiter ce village d'Esquelbecq, d'autant qu'il y a aussi une vieille chaumière du XVIIe siècle qui a été entièrement rénovée par l'association Iserhoek. Donc là aussi, vous pouvez bien sûr replonger dans la riche histoire de cette commune. Le fleuve donc quitte Esquelbecq pour se diriger vers Bambeck, un autre petit village de Flandre française, où vous pouvez là aussi découvrir une magnifique halle kerk, une église halle de style gothique, qui a été construite avec des briques, les briques sableuses du pays flamand, de cette couleur jaune ocre. Il est à remarquer en particulier donc les confessionnaux qui datent du XVIIe siècle, ainsi que les fameux retables dont on a déjà évoqué ici au cours des émissions précédentes, les raisons de ces retables qui datent bien sûr de la fameuse période de la contre-réforme. L'église avait été d'ailleurs particulièrement dévastée lors de la guerre des Gueux, lors de cette guerre de religion qui opposait les catholiques aux protestants. Les protestants à l'époque, évidemment, étaient un peu des iconoclastes. Et quand les catholiques ont voulu reconquérir les âmes, eh bien, ils ont donc mis en place ces superbes retables. Nous quittons Bambeck pour se diriger toujours vers le nord. Et ici, nous avons à franchir une frontière qui n'existait pas, bien sûr, auparavant, puisque ce fleuve est un fleuve qui traversait tout le comté de Flandre. Mais aujourd'hui, ce pays de Flandre est donc coupé en deux parties, une partie France et une partie Belgique. Et donc nous allons arriver donc sur la frontière dont on en a parlé tout à l'heure de Rosbruges en particulier. Mais là, le fleuve prend bien sûr beaucoup plus de force. Il va devenir navigable et nous allons donc nous diriger vers tout simplement une ville qui s'appelle Dixmude. Mais avant d'arriver à Dixmude, eh bien, il y a bien sûr la fameuse ville de Poperinghe. Poperinghe, c'est une charmante bourgade typique du pays flamand qui a été préservée heureusement lors de la Première Guerre mondiale, puisqu'en effet Poperinghe ainsi que la ville de Furne furent les deux grandes villes de Flandre qui n'ont pas été occupées donc par les Allemands pendant la guerre 14-18. Ce fut d'ailleurs longtemps la base arrière pour les rescapés de ces batailles qu'ils ont ensanglantées, bien sûr les champs de Flandre, et en particulier cette bataille terrible de Passchendaele. Et donc, il y avait ce triangle qui était composé de Poperinghe et de Furne, donc, qui a été préservé. Et d'ailleurs, quand vous visitez Poperinghe, je ne peux que vous inviter à pousser le pas jusqu'à la commune de Furne, où là, vous allez vous replonger, bien sûr, dans la riche histoire de la Flandre passée, mais qui a su garder, bien sûr, un certain modernisme. De Poperinghe, eh bien, nous allons nous diriger bien sûr vers Dixmude. Alors, il faut savoir aussi que la Flandre souffre d'un manque de nappes phréatiques, et le fleuve de l'Isère sert aussi énormément pour apporter tout simplement l'eau potable aux populations, d'où bien sûr une politique drastique pour préserver la qualité des eaux de l'Isère. Ce qui n'est pas du tout facile quand on connaît la densité des industries sur ce secteur. Nous arrivons donc à Dixmude. Et Dixmude, là aussi, c'est une page tragique de ce pays flamand, puisque la ville de Dixmude, comme la ville de Ypres d'ailleurs, a été complètement rasée. par les bombardements pendant la guerre 14-18 et aujourd'hui. Eh bien, la ville, bien sûr, s'est reconstruite. Elle compte à peu près 20 000 habitants. Il y a un magnifique port de plaisance à Dixmude, donc le long de l'Isère. Et au pied de, non loin de ce port, eh bien, une tour s'élève, la fameuse tour de l'Isère, la tour de paix. Tour qui a eu une histoire aussi assez mouvementée, puisque cette tour qui avait été construite au lendemain de la Première Guerre mondiale en souvenir du sacrifice des soldats flamands particuliers sur les fronts, eh bien, a été dynamitée en 1946 et a été reconstruite, bien sûr, par une souscription pour, bien sûr, commémorer le souvenir, bien sûr, du sacrifice des soldats pendant cette première guerre mondiale. Et cette tour, évidemment, elle est surmontée d'une inscription, « Neut mehr Orlog », « Plus jamais la guerre ». On peut aussi y lire les sigles AVVVVK, Alles for Vlaanderen, Vlaanderen for Christus, donc tous pour la Flandre et la Flandre au Christ. À l'époque, bien sûr, la Flandre était très catholique et d'où, bien sûr, cette référence religieuse. Cette tour de l'Isère, tour de paix, donc surplombe entièrement la plaine maritime de Flandre et on peut d'ailleurs, quand on est tout en haut, tout simplement admirer par beau temps toute cette vaste plaine flamande. On voit du côté de Dunkerque comme du côté de Newport. C'est absolument magnifique. Bien sûr, il y a un ascenseur pour grimper cette tour qui fait quand même 84 mètres de hauteur. La première tour, d'ailleurs, avait été inaugurée en 1930. Elle a été détruite donc en 1946 et on peut encore y découvrir quelques ruines là aussi et la crypte qui a été entièrement restaurée il n'y a pas très longtemps. Dixmude, eh bien, c'est aussi bien sûr l'église Saint-Nicolas qui, alors Dixmude comme Ypres, comme Bailleul, avait été entièrement donc rasé par les guerres, mais Dixmude s'est redressé de ses cendres et a reconstruit à l'identique l'église Saint-Nicolas. C'est une église de style donc gothique du XIVe siècle. C'est une d'ailleurs cette église devait subir encore une fois des outrages lors de 1940, mais là encore on a cherché, les autorités ont cherché à préserver l'architecture originelle de ce bâtiment. On peut aussi visiter le béguinage, qui est typique, un peu comme celui que l'on peut voir à Bruges ou à Courtrai. Évidemment, donc c'est Dixmude, Ypres, évidemment, on vient de fêter le centenaire de cette grande guerre de 14-18. Eh bien, évidemment, il y a on ne peut pas ne pas y penser. On va écouter ici un poème un peu consacré justement à cette plaine de l'Isère le long de Dixmude, de Ypres.
Un lambeau de patrie. Ce n'est qu'un bout de sol dans l'infini du monde. Le nord y déchaîne le vent qui mord. Ce n'est qu'un peu de terre avec sa mer au bord et le déroulement de sa dune inféconde. Ce n'est qu'un bout de sol étroit, mais qui rend forme encore, et sa reine, et son roi, et l'amour condensé d'un peuple qui les aime. Le nord a beau y déchaîner le froid qui gère ses morts, il est brûlant, ce sol suprême. Quelques troupes, grâce à ce roi, y propagent l'exploit, de l'un à l'autre bout de boueuses tranchées, et l'Isère, débordée, y fait stagner ses eaux sur des vergers de fermes où jadis les oiseaux, aux vieux pommiers en fleurs, suspendaient leurs nichées. Dixmude et ses remparts, Newport et ses canaux, et Furnes, avec sa tour pareille à un flambeau, vivent encore ou son défunt sous la mitraille. Au ciel bleu de la Flandre, aux nuages si clairs qu'on les prenait pour des anges traversant l'air. Qui donc eût dit que tu serais ciel de bataille un jour? Sous ta voûte, la gloire et le deuil tour à tour apparaissent et s'entremêlent. Ô nom sacré, Vulben, Pervis, Ramscapelle, c'est près de vos clochers, en d'immenses tombeaux, qu'ils goûtent le repos, ceux qui se sont battus avec force et furie. Le sol qui les aima leur a fait bon accueil, si bien que, n'ayant ni suaire ni cercueil, ils sont jusqu'à leurs os étreints par la patrie. Parfois, en robe toute droite, ou de toile ou de laine, celle qu'ils acclamaient au jour d'orgueil, leur reine, vient errer et prier parmi leurs pauvres croix. Et son geste est timide, et son ombre est discrète. Elle s'attarde et rêve, et quand le soir se fait, vers les dunes là-bas, sa frêle silhouette, avec lenteur, s'efface et bientôt disparaît. Tandis que lui, le roi, l'homme qui fut Saint-Georges, s'en revient du lieu même où l'histoire se forge, au bord de l'eau bourbeuse et sombre de l'Isère. Il rêve lui aussi, et rejoint sa compagne, et leurs pas réunis montent par la campagne, vers leur simple maison qui souffre sur la mer. Ô Flandre, voilà comment tu vis, âprement aujourd'hui. Voilà comment tu vis dans la gloire et sa flamme, et le deuil et sa cendre. Jadis, je t'ai aimé avec un tel amour que je ne croyais pas qu'il eût pu croître un jour. Mais je sais maintenant la ferveur infinie qui t'accompagne. Ô Flandre, à travers l'agonie, et t'assiste et te suit jusqu'au bord de la mort, et même, il est des jours de démence et de rage, où mon cœur te voudrait plus déplorable encore pour pouvoir tuer à t'aimer davantage. C'est un poème donc d'Émile Verhaeren, Un lambeau de patrie.
Et donc en particulier, bien sûr, il cite cette plaine de Dixmude où ce fut bien sûr le théâtre de terribles combats. Et c'est pour ça que eh bien, pendant de nombreuses années, il y avait un pèlerinage au départ pour se souvenir du sacrifice des soldats flamands en particulier donc sur ce front de l'Isère. Nous quittons donc Dixmude pour nous diriger cette fois vers Newport.
Mijn land, dat zijn oneindige lachten, met hemels van trillend overlicht. Met regen en wind en jagende wolken, mijn blote land met zijn eindeloos zicht. Mijn land zijn de stormen laat in oktober, met meeuwen verschrikt van de zee weggevlucht. Een donker dak is de hemel in november, met trage reigers in de klamme lucht. Mijn land is een oude, droevige historie. Het gevecht voor de boterham was hier niet genoeg. Of zie de grote oorlog vergeten, die duizenden jongens hier den dood in joeg. Mijn land is het lied van de nozele kinders, van scherpe kogels genees je niet. In Frankrijk, in Duitsland en in Groot-Brittannië staan droge bergen van verdriet. In Frankrijk, in Duitsland en in Groot-Brittannië staan droge bergen van verdriet. Mijn land is de glimmende bruine vaterde, die in de maand mei van groen is bedekt. Vorgels gebesten liggen hier de mersen, langs grachten en beken vooruit gestrekt. Mijn land tussen de zee en de bergen, mijn weelderig zomers, polderland, mijn straten, mijn dorpen en mijn boerenmensen, mijn westhoek, mijn oorot, Vlaanderland. Mijn straten en dorpen en mijn boerenmensen, mijn westhoek, mijn oorot, Vlaanderland. Mijn land als ze mijn ontembare dromen, mijn krabbels, mijn dichtjes, mijn fantasie, mijn platen en boeken en mijn verre vrienden, in een land zonder liedjes, daar woon ik niet. Mijn land, mijn lief, mijn vader en mijn moeder, mijn land, mijn kinders voor de eeuwigheid, mijn land, mijn lucht, mijn water en wolken, mijn land, mijn aarde, gebenedijd. Mijn land, mijn lucht, mijn water en wolken. Mijn land, mijn aarde, gebenedijd.
Willem Vermander, Mijn Land, Mon Pays. Vous êtes à l'écoute de l'heure flamande sur Radio Plus.
Et donc, nous évoquons aujourd'hui donc l'Isère, qui est née donc non loin de Saint-Omer, dans le village de Becher. Et nous arrivons maintenant, après avoir passé donc Dixmude, sur la mer du Nord avec Newport. Newport, donc, eh bien, le cours d'eau, eh bien, tout simplement, il n'a pas une grande pente, hein, ce qui fait qu'il serpente beaucoup à travers cette plaine flamande. Ici, il est à peine plus haut au niveau de la mer, il est à peine à plus de 5 mètres. Cette faible pente, eh bien, évidemment, laisse notre fleuve créer de vastes zones humides qui sont, bien sûr, autant de réserves naturelles, autant pour les poissons, les oiseaux et puis aussi la flore, bien sûr, même s'il faut, hélas, admettre que le fleuve est aussi victime, malheureusement, de l'utilisation excessive de produits chimiques, en particulier d'engrais, de pesticides. Donc l'Isère arrive donc au bord de la mer du Nord où il va se jeter donc au niveau du port de Newport. Newport donc qui est aujourd'hui un très grand port de plaisance, un des plus grands d'ailleurs de la côte flamande. Ce fut par le passé bien sûr un port qui était destiné plutôt à la pêche. Évidemment, compte tenu de sa position à l'embouchure du fleuve, la ville servait bien sûr de contrôle des entrées et sorties des navires, mais aussi pour protéger bien sûr l'accès. Évidemment, compte tenu de cette position stratégique, faisait aussi l'objet de nombreuses attaques de divers envahisseurs. Une des bataille qui est restée dans la mémoire, c'est la bataille dite de bataille de Newport, qui a eu lieu le 2 juillet 1600 et qui devait opposer d'ailleurs l'armée espagnole à l'armée hollandaise, les Hollandais qui étaient donc à l'époque d'ailleurs aidés par les Anglais. La ville de Newport, malheureusement, a aussi subi de nombreux dégâts lors de la Première Guerre mondiale. Ils ont reconstruit, bien sûr, cette ville, en particulier la halle au grain, ainsi que l'église Notre-Dame. Et c'est aussi à voir la fameuse tour Saint-Laurent qui est bien sûr qui a subi là aussi des ravages de la Première Guerre mondiale, qui a été un petit peu raccourcie, mais qui domine encore à 35 mètres de hauteur. un monument aussi impressionnant qui a été érigé. C'est le bâtiment consacré au roi Albert Ier. Donc visite de Newport, bien sûr, s'impose. L'émission touche déjà à sa fin. Il y a encore plein de choses à dire sur l'Isère. Eh bien, nous allons nous quitter et nous vous souhaitons une excellente semaine sur les ondes de Radio Plus.
Ik ben al even onderweg langs de straten van een tijd. Ik heb mijn goesting niet gekregen, ik heb mijn zakken vol met spijt. Ik verteer mijn levensdagen, maar niemand vind ik troost. Want mijn hart heb ik gesloten en mijn ziel heb ik vermoord.